deuxième élément qui va déclencher la crise de la dette, c'est un virage ultralibéral amorcé aux États-Unis d'abord, et ensuite qui va se répercuter par Thatcher en Grande-Bretagne et par la plupart des pays occidentaux, dont Mitterrand en France. C'est Carter qui initie ce tournant ultralibéral. Il sera bien entendu largement amplifié par Reagan, mais c'est à la fin de la présidence de Jimmy Carter en 1979. Les États-Unis décident de lancer un grand programme militaro-industriel et de cette manière-là de lutter contre la crise qui s'est installée dans les pays du Nord. Et pour lancer un grand programme, il faut attirer l'argent. Et pour attirer l'argent, il faut le payer. Il faut le payer cher. Et pour le payer, il faut augmenter les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, c'est la façon dont on rétribue l'argent à celui qui va vous le prêter. Donc les États-Unis vont multiplier par 3 les taux d'intérêt en quelques semaines, là aussi. Ils vont passer d'à peu près 4-5% à 16-18%. Ça veut dire quoi pour les pays du Sud? Ça veut dire que l'argent que les banques privées prêtaient aux pays du Sud, parce que c'était les candidats naturels, c'était ceux qui permettaient un débouché à cet argent et donc de faire des profits avec, eh bien les banques privées vont dire, mais attendez, puisque les États-Unis me proposent un taux d'intérêt plus élevé, maintenant je ne vais plus prêter au Sud, je vais prêter aux États-Unis. Et c'est le but des États-Unis, attirer, aspirer l'argent qui est disponible. Donc les flux se tarissent, les flux privés en tout cas, se tarissent pour pas mal de pays du Sud. Seuls ceux qui ont des ressources naturelles importantes et ceux qui sont considérés comme émergents, donc comme en voie de devenir des pays industrialisés, vont avoir encore les faveurs des banques privées, mais pour les autres, le robinet va se couper. Et puis, deuxième chose, les taux qui étaient bas dans les années 60 et 70 pour inciter les pays du Sud à emprunter, eh bien, ces taux étaient indexés sur les taux américains. Donc, quand les taux américains étaient bas, les prêts aux pays du Sud étaient à taux bas. Mais quand les Américains augmentent leur taux d'intérêt et que les Anglais font de même, eh bien les prêts aux pays du Sud, qui pour la plupart étaient indexés sur des taux anglo-saxons, hein, soit à la fois à la bourse de Londres, à la bourse de New York, eh bien eux aussi sont multipliés par 3. C'est-à-dire qu'en fait, on leur demande 3 fois plus d'intérêt au bout du compte. Donc, ils ont des ressources inférieures parce que les cours des matières premières s'effondrent. Ils ont des ressources inférieures parce que les banques privées coupent leurs prêts, coupent les flux à destination des pays du Sud, et ils doivent rembourser 3 fois plus d'intérêts. Il y a un moment où, évidemment, la situation craque, et ça craque en août 1982, quand le Mexique est le premier pays à dire, bah, écoutez, là, nous, on ne va plus pouvoir rembourser. Et il y a 14 pays qui font de même et qui disent, bah, finalement, nous non plus. Alors là, il faut gérer la crise. Parce que les créanciers ont vraiment peur que le système financier s'effondre et qu'ils ne revoient jamais la couleur du pognon qu'ils ont prêté. Et la façon de gérer la crise va être la suivante. On va mandater le Fonds monétaire international pour être, en gros, l'huissier des créanciers, pour être celui qui va organiser le retour des remboursements, quelles que soient les conséquences sociales sur place. Donc, le Fonds monétaire international, c'est le frère jumeau de la Banque mondiale. Il a été créé lui aussi en 1944 à Bretton Woods. Et son but, à lui, c'était de gérer la stabilité du système financier international. On sait qu'entre deux guerres, le système financier avait connu de très fortes turbulences. Et pour pas que ça recommence, on dit on va mettre un gendarme puissant au cœur du système. Un peu trop puissant à notre goût, vu les principes qu'il défend, mais c'est une autre histoire. Les monnaies sont fluctuantes les unes par rapport, les monnaies sont fixes, pardon, les unes par rapport aux autres, et ce système peut perdurer s'il y a un gendarme, justement, qui est capable de dire ce pays a une économie relativement solide, et du coup, le taux de change qui a été fixé au départ peut être maintenu. Le système va craquer là aussi à cause de celui qui l'a promu avec le plus de force, ce sont les États-Unis. Et le 15 août 1971, Nixon décrète que le dollar n'est plus librement convertible en or. Ils ont tellement distribué de dollars à l'extérieur du pays qu'ils se disent, mais si d'un seul coup tous ceux qui en ont demandent de l'échanger contre de l'or, ce qu'ils ont toute légitimité pour faire, nous on ne va pas être capable de suivre et notre monnaie va s'effondrer. Donc ils décident qu'on ne peut plus convertir librement du dollar en or. Quelle va être la conséquence? Eh bien, la conséquence, ça va être la fluctuation des monnaies. Et cette petite musique que vous entendez des fois sur France Info, notamment, le dollar a monté ou l'euro a baissé, ou c'est quelque chose qui n'est pas immuable. Pendant très longtemps, les monnaies ne bougeaient pas les unes par rapport aux autres. Et maintenant, on nous met ça juste avant les informations, vous savez, parce que c'est évidemment la toile de fond, c'est ce qui sous-tend la logique de ce qu'on nous annonce juste derrière. Bon, donc on arrive à la crise de la dette et le FMI intervient. Tous les créanciers se plantent derrière le FMI. Dès qu'un pays est surendetté, dit moi je ne peux plus rembourser, tous les créanciers disent non, on ne peut rien faire, il faut aller voir le FMI. Ils vont accepter de reprendre des prêts à ces pays uniquement s'il y a signature d'un accord avec le FMI. Et le FMI va imposer ce qu'on appelait des programmes d'ajustement structurel, donc qui répondent à différents points qui sont issus du consensus de Washington. Ces programmes d'ajustement structurel, c'est toujours la même logique. C'est réduire les dépenses de l'État, écoutez bien parce que On va bientôt nous annoncer des choses qui ressemblent à tout ça, et puis ça a déjà commencé, mais ça va sans doute s'amplifier. Réduire les dépenses de l'État, augmenter ses recettes, et avec la différence, non pas permettre le développement du pays, mais avec la différence, rembourser en priorité les créanciers. Donc parmi les mesures, il y a la suppression des subventions aux produits de première nécessité. Dans la plupart des pays du Sud, pour que les produits de base soient accessibles aux plus démunis, ils sont subventionnés par l'État. Donc l'État verse une subvention au producteur pour qu'il accepte de le mettre sur le marché à un prix moindre, et du coup pour que davantage de personnes puissent l'acquérir. On leur dit, mais écoutez, ça ne sert à rien, ça coûte de l'argent à l'État, ça ne rapporte rien, vous supprimez ces subventions. Et donc quand on entend parler des meutes de la faim dans ces pays, ou des meutes anti-FMI la plupart du temps, c'est parce que dans la nuit, le prix de l'essence a été multiplié par deux, ou le prix de l'électricité a été multiplié par deux, ou le prix du pain a été multiplié par deux, etc. Donc suppression de ces subventions. Gel des salaires dans la fonction publique, licenciement. Suppression de 13e mois de toutes sortes d'avantages qui aient pu exister. Gel des retraites également. Privatisation. Il faut privatiser les entreprises susceptibles d'être rentables. En gros, l'État doit se concentrer sur la défense, sur la justice, sur la police, et puis ça va être à peu près tout. TVA. Ah, la TVA. Michel Rocard a dit un jour, la TVA est un impôt intelligent. Retenez bien ça. Ça veut dire que vous ne la sentez pas beaucoup passer, mais qu'elle vous touche, vous surtout, et moi aussi, et Rémi aussi, sans doute. C'est-à-dire que la TVA, elle va toucher de la même manière celui qui achète sa baguette de pain, qu'il soit riche ou pauvre. Donc elle touche plus le pauvre. Celui qui doit consacrer la totalité de ce qu'il gagne à consommer pour survivre, si on a une TVA à 20% par exemple dans un pays, il va payer l'équivalent d'un impôt de 20% sur son revenu. Mais celui qui va placer 90% dans un paradis fiscal et pas payer d'impôt sur ses 90%, et qui va utiliser uniquement 10% de ses revenus pour la consommation pour sa survie, il va payer l'équivalent d'un impôt de 2%. Donc c'est un impôt intelligent, la TVA, pour Michel Rocard, vous comprenez, hein? Donc on va enlever, faire baisser ou supprimer les impôts proportionnels aux revenus, les impôts sur les grandes entreprises, et on va au contraire augmenter la TVA. Donc, une fiscalité qui aggrave encore les inégalités. Libéralisation de l'économie, ouverture des marchés, il faut qu'une entreprise puisse venir investir sans entrave, faire des profits au détriment des petits producteurs locaux et rapatrier ses profits vers l'extérieur. Et c'est cette libéralisation de l'économie qui va être la brèche qui va permettre cette crise qu'on a connue aujourd'hui avec la force que l'on connaît depuis 2007. Donc voilà un petit peu cette grande transformation des années 80. Il faut savoir que la part des salaires en pourcentage du PIB a baissé de manière importante depuis le début des années 80. C'est en 82 là que s'opère le changement. Pour vous donner juste un chiffre, la part des revenus qui va aux 10% les plus riches aux États-Unis était de 35% en 1982 et de 50% en 2005. Donc les inégalités qui s'accroissent, et donc c'est pas du tout comme l'eau coule vers la mer, hein, c'est le choix, la conséquence de choix complètement délibérés, imposés violemment et brutalement par le FMI au service des grands créanciers, des grandes puissances et des grandes entreprises. Alors comment on arrive à la crise de 2007? Eh bien, ce qui a craqué lors de la crise de 2007, c'est le maillon le plus faible de cette chaîne-là. Ça a été le marché immobilier et hypothécaire aux États-Unis avec cette crise des subprimes. Donc la dernière nouveauté qui avait été trouvée pour les banques et pour tous les investisseurs privés pour faire un maximum de profit, c'était ce principe des crédits subprimes, c'est-à-dire qu'on payait à des on prêtait à des populations qui en général n'étaient pas solvables, puisqu'en gros à ceux qui étaient solvables, on avait déjà prêté tout ce qu'on pouvait et même au-delà. Donc on prêtait à ceux qui n'étaient pas solvables avec un taux d'intérêt réduit les premières années, et au bout de 2 ans, enfin, la troisième année, les taux explosaient. Et c'est là où évidemment ça, le système a craqué. Pour vous donner un exemple, une gérante d'un magasin de photocopieuses avait acheté en 2006 une maison qui valait 460 000 $ aux États-Unis. Elle devait rembourser en 2006 et 2007, donc sur les 2 premières années, à un taux de 8,2%. Et ça lui faisait des remboursements de 3 700 $ par mois. Et en 2008, donc au début de la troisième année, le taux est passé à 14% et elle devait rembourser 8 000 $ par mois. On lui avait dit, mais le bien que vous achetez va avoir de plus en plus de valeur et donc c'est lui qui va garantir votre achat. Et au bout de course, si vous ne pouvez pas rembourser, ben vous le revendez et puis vous arriverez à rembourser votre emprunt. Simplement, à cause de la crise, eh bien, la valeur de la maison est passée de 460 000 dollars à 310 000 dollars. Donc évidemment, on leur a raconté des bobards. Et pour faire ces profits-là, les banques, qui savaient très bien que ce n'était pas un système qui était viable à long terme, les banques avaient en général créé des sociétés, des structures. Alors, il y a des noms compliqués, hein, vous verrez dans le bouquin si vous le lisez, il y a des abréviations dans tous les sens. Mais on a essayé de le rendre le plus clair possible. Ils ont créé des véhicules, ils ont appelé ça des véhicules, à l'extérieur. C'est-à-dire que c'était hors bilan pour les banques, mais elles avaient évidemment, elles, organisé ces véhicules pour que les pertes soient planquées dans cet outil-là. Et donc, en fait, elles se sont trouvées avec des créances qui étaient douteuses, mais qui étaient placées en dehors de leur bilan. Donc, quand elles faisaient leur assemblée générale, pour les actionnaires, ça ne se voyait pas, on distribuait des dividendes, tout le monde était content, et la machine continuait de marcher. Mais quand le système a craqué, quand les difficultés sont survenues, il a bien fallu qu'elles réintègrent ces créances douteuses dans leur bilan. Et du coup, ça a complètement paralysé le marché du crédit aux États-Unis d'abord, et puis au niveau mondial ensuite, parce que quand une banque demandait à emprunter auprès d'une autre banque, puisqu'elles se font en permanence des prêts les unes entre elles, comme ça, quand une banque demandait à emprunter, l'autre ne savait pas du tout la somme de créances douteuses qui était à l'intérieur de l'autre, et donc elle disait, mais non, on ne va pas vous prêter, on prend un risque trop important si on vous prête. Donc ça a complètement paralysé le marché du crédit. Et donc suite à cela, la Banque Centrale Européenne et la Réserve Fédérale des États-Unis ont injecté des liquidités. C'était à l'été 2007. La Banque Centrale Européenne, le 14 août 2007, en une journée, a injecté 230 milliards d'euros de liquidités, donc justement destinés à ce que le marché du crédit ne soit pas paralysé. C'est-à-dire qu'en fait, les pays riches ont fait, pendant cette crise, ce qu'ils interdisaient aux pays du Sud de faire quand ils étaient en crise. Par exemple, l'injection de liquidités, quand l'Indonésie a été en crise en 97-98, on a dit à l'Indonésie, non, vous n'allez pas faire ça. Vous allez réduire les dépenses, augmenter les recettes et rembourser vos créanciers en priorité. Là, on a injecté des liquidités, on a baissé les taux d'intérêt, alors qu'à l'Indonésie, on lui a dit, non, vous allez augmenter les taux d'intérêt pour attirer les capitaux. Là, on a baissé les taux d'intérêt et ils sont devenus très proches de zéro. On a nationalisé des banques, vous vous rendez compte? Ils ont nationalisé des banques. On leur aurait dit ça 6 mois avant le début de la crise. Mais non, vous comprenez pas, le monde a changé, on n'est pas en Union soviétique quand même. La Northern Rock a été nationalisée en Angleterre. Freddie Mac et Fannie Mae, les organismes de crédit hypothécaire aux États-Unis, ont été nationalisés. AIG, un assureur américain, a été nationalisé. Et puis, il y en a d'autres à qui on a dit, ben non, vous, on ne vous nationalise pas, vous allez vous effondrer comme ça. Donc, Lehman Brothers, on a dit, ben non, vous allez tomber. Mais bon, on a quand même récupéré les morceaux. Mais Lehman Brothers a fait faillite. Et puis, on a mis en place des plans de sauvetage, qu'on avait aussi interdits, justement, aux pays du Sud. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a apporté de l'argent aux banques pour qu'elles ne s'effondrent pas, mais sans contrepartie. C'est-à-dire que l'État n'a pas dit, écoutez, vous allez vous effondrer si je n'interviens pas. Donc, vous virez de là, et puis c'est moi qui vais gérer la banque. Et je vais gérer dans l'intérêt des populations, pas dans l'intérêt d'une poignée d'actionnaires qui s'enrichissent. Non, la France, elle n'a pas dit ça, elle a prêté à la BNP, elle a prêté à la Société Générale, et on a dit, non, c'est provisoire. Nous, on prête un petit peu d'argent, dès que vous êtes tiré d'affaire, vous nous rendez, puis terminé. On prend pas déjà d'action en or. Souvent, il arrive que quand l'État investit comme ça dans une banque, il décide qu'il a une action en or. C'est-à-dire que même si les autres actionnaires sont d'accord pour prendre certaines mesures qui ne sont pas favorables à l'État, l'État ne dit pas question, et sa seule action en or suffit à bloquer le mécanisme, on n'a pas nommé d'actionnaire au nom de l'État au sein des conseils d'administration, on a laissé les mêmes en place. Qui dirige la BNP aujourd'hui? Le même que celui qui dirigeait avant 2007. Qui dirige la Société Générale aujourd'hui? Le même que celui qui dirigeait avant 2007. Donc il n'y a pas eu de part active prise dans la gestion des banques. Et même quand la BNP a remboursé l'État, étant donné que le fait que l'État intervienne et puis que les risques de crise s'éloignent, l'action de la BNP a augmenté, l'État a dit non, mais remboursez-nous au prix où on vous a payé l'action, on n'est pas là pour faire des profits. Enfin, vous vous rendez compte un petit peu de la démarche de l'État français et de la plupart des pays du Sud. Aux États-Unis, il y a 84 banques qui ont fermé entre janvier et août 2009. Donc ce n'est pas des banques comme la BNP, mais essentiellement beaucoup de banques locales qui ont fait faillite. Donc la crise a frappé vraiment fort, mais elle a frappé d'autant plus fort que suite à l'arrivée au pouvoir de Reagan, eh bien, les politiques néolibérales ont justement privé de toute forme de protection ceux que la crise allait frapper. Il y a donc une très grosse destruction de capital productif et puis un chômage en hausse. On est passé au-dessus du taux de 10% de chômeurs dans l'Union européenne au mois de janvier là, de 2010. Alors, au Sud, quel a été l'impact de cette crise financière et économique au Sud? Il y a eu un amortisseur au Sud. Dans un premier temps, certains pays du Sud, comme le Brésil, ont dit « Regardez, nous, on est très bien préservés. On avait une politique saine. Hein, » Lula n'a pas manqué d'éloges sur sa politique en disant « Regardez, nous, ça s'effondre pas. On est costaud. » Ce qui a permis cet amortisseur, c'était les réserves de change. C'est-à-dire qu'au début des années 2000, et ça va être le lien avec la crise alimentaire dont on va parler, au début des années 2000, il y a eu une hausse des cours des matières premières, donc il y a une baisse continue de 1977 jusqu'au 2001, 2002, même 2003, mais à peu près en 2004-2005, il y a une inversion de tendance et des cours qui repartent à la hausse pour arriver à des sommets qui sont atteints au premier semestre 2008 et qui vont provoquer justement la crise alimentaire. Et donc, les pays qui étaient exportateurs de marchandises dont les cours s'envolaient ont pu accumuler des réserves de change. Les pays producteurs de pétrole, notamment, ont accumulé beaucoup de réserves de change. La Chine possède plus de 1 000 milliards de dollars en réserves de change et c'est complètement ahurissant. La Chine a 1 000 milliards de dollars dans ses coffres et au lieu de dire notre dette est de 300 milliards de dollars, on a 1 000 milliards. Premièrement, ils pourraient dire allez vous faire foutre. Ils pourraient tout à fait dire ça aux créanciers. Ils ne le disent pas. Ils pourraient dire maintenant bon, allez pas vous faire foutre, mais on va vous rembourser avec nos 1 000 milliards, les 300 qu'on vous doit. Et puis avec le reste, on va se débrouiller par nous-mêmes et on ne fait plus appel à vous. Non, ils continuent de s'endetter. Regardez comme on est riche, vous allez donc nous prêter dans les meilleures conditions possibles. Et avec cet argent, ils achètent des bons du Trésor des États-Unis. Donc ils permettent au gouvernement des États-Unis de boucler ses fins de mois, ce qui n'est absolument pas logique d'un point de vue économique. Mais ils se tiennent par la barbichette entre la Chine et les États-Unis. Ils ont des intérêts communs très profonds. Donc c'est pour ça qu'ils ne font pas des politiques fondamentalement différentes, mais c'est des luttes de pouvoir au niveau international. Ces réserves de change donc, que les pays du Sud accumulent, certains vont s'en servir pour rembourser de manière anticipée leurs dettes, et donc du coup pour économiser les intérêts là-dessus. On sait que l'Argentine, le Brésil, les Philippines, l'Uruguay ont remboursé le Club de Paris, ont remboursé le FMI, en disant ben voilà, maintenant nous on vous rembourse cette partie-là, mais on ne va plus avoir à signer d'accord avec vous pour continuer. Malgré tout, ils ont continué dans la même logique. Donc, ils aient signé un accord avec le FMI ou pas, ça ne changeait pas fondamentalement les choses. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la situation s'est nettement détériorée au Sud, parce que cet amortisseur fait de moins en moins effet, et parce que les hausses des taux d'intérêt, la hausse a repris, puisqu'on a mis des primes de risque importantes en disant, si ces pays s'effondrent, et effectivement, on va leur prêter, mais on va leur prêter à un taux beaucoup plus important. Donc, il y a le taux de base qui est le taux international, et puis on met une prime de risque suivant l'état de santé du pays, et c'est là où les indices de notation interviennent. Je vais vous citer quelques phrases qu'on a reproduites dans le texte, parce qu'elles me semblent intéressantes sur l'analyse de la crise. C'est des phrases issues d'un rapport de la CNUSED, la Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement. La CNUSED a écrit la chose suivante. Il est largement reconnu que l'actuelle crise financière est le résultat des faiblesses du modèle néolibéral qui inspire les politiques économiques partout dans le monde depuis 3 décennies. Faiblesses qui ont été amplifiées par de mauvais choix et une réglementation insuffisante dans les pays avancés. Elle ajoute plus loin, la récente crise économique et financière a fait voler en éclat le mythe de l'autorégulation des marchés. Face à la crise, la plupart des grands pays développés à économie de marché ont pris du recul par rapport à des formes de gouvernance économique reposant sur le libre marché, pour explorer d'autres formes prévoyant un rôle considérablement accru de l'État dans la gestion économique. Ils reconnaissent qu'il faut ainsi que l'État joue un plus grand rôle, non seulement par la régulation, mais aussi et surtout par le biais de mesures keynésiennes, de stimulation budgétaire, telles que celles qui sont actuellement mises en œuvre dans la plupart des grandes nations occidentales. Mais, la dernière phrase est intéressante, toutefois cette tendance apparaît plus forte dans les pays avancés que dans les pays en développement. On va faire nous ce qu'il faut, puis vous, on va vous interdire de le faire. Tout récemment, plusieurs grands pays en développement, Chine, Brésil, Afrique du Sud, ont commencé à mettre en œuvre des politiques publiques de relance de leur économie, mais la plupart des pays les moins avancés n'ont tout simplement pas les moyens d'en faire autant. On les a privés des moyens d'en faire autant. Donc voilà pour la crise financière et économique au nord et au sud.